Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy autour de vous. Les grandes voix qui débattent jusqu'à 19h. Ce soir, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou et Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1.
Bienvenue à tous dans ce studio. Bonsoir.
Bonsoir.
Les grandes voix. Charles Villeneuve, vous avez compté comme nous, ou presque, enfin en tout cas comme occurrence. Vous avez vu cette troisième mobilisation interprofessionnelle des syndicats contre cette réforme des retraites. Vous en dites quoi? À la veille de ce rendez-vous avec Édouard Philippe.
À Paris, c'est plus, si vous voulez, que précédemment, selon les chiffres d'occurrence.
Et sur la France
entière, c'est moins que finalement les 800 000 que le ministère de l'Intérieur avait compté. C'est-à-dire, moi, en gros, j'en tire que les lignes de force n'ont pas tellement bougé. Le front syndical ne s'est pas fissuré, même si la CFDT a joué sa partition, qui n'est pas celle de la CGT et de Force ouvrière. Et quant au gouvernement, moi je pense qu'il restera comme il l'est ce soir, stoïque, et le Premier ministre ne lâchera, à mon avis, pratiquement rien jusqu'à au moins demain midi, quand en bilatéral, il recevra notamment le chef de la CFDT, Laurent Berger, avec qui, dont on dit qu'il a la clé, j'en suis pas si sûr, on débattra de ça, justement. J'en suis pas si sûr aujourd'hui, justement ce soir, notamment. Et je verrai comment Gérard Carrérou va nous dire
que la traduction de cette troisième mobilisation. Alors, c'est vrai que les images étaient impressionnantes tout au long de la journée.
Oui,
on a vu les rangs serrés.
Les images étaient impressionnantes. Mais vous savez, les chiffres, c'est quand même les chiffres qu'il faut regarder de près. Et à partir du moment où c'était l'acte 3, c'était la troisième grande manifestation.
Absolument.
La dernière de 2019, disons, la dernière avant les fêtes de fin d'année.
Et on était dans la troisième semaine.
On était en troisième semaine. Moi, je dirais ce soir qu'effectivement, ils ont rassemblé du monde, mais le match n'est pas plié. Si, effectivement, les syndicats avaient pensé qu'ils atteindraient le million, et avec l'appui des petits bataillons de la CFDT, parce que je n'ai pas eu l'impression qu'il y avait des gros bataillons, mais ce n'était pas ceux de la CFDT. Mais en tout cas, ils n'ont pas atteint le chiffre miracle. Ils sont à 615 000. Donc je pense que ce qui va continuer, c'est les négos demain après-demain, mais c'est la guerre de tranchées, maintenant. C'est la guerre de tranchées, c'est-à-dire que ce n'est pas le match décisif. On pouvait penser que ça va être l'instant décisif. Eh ben non, ce n'est pas l'instant décisif. Il faudra d'autres instants.
Et la bataille des chiffres, je précise quand même à nos auditeurs, 1,8 million annonce la CGT sur toute la France, et on a donné le chiffre de l'Intérieur, 615 000 pour cette troisième édition de mobilisation. Emmanuel Duteil, demain, après-demain, parce qu'on a entendu Édouard Philippe face aux députés cet après-midi redire sa détermination totale quant à la nécessité de cette réforme. Effectivement, le match demain, avec argument contre argument. Mais il n'y a pas un chaos d'emblée.
Oui, je suis assez d'accord avec ce que disait Gérard. Là, on est sur une forme de guerre de tranchées, puisque le match, effectivement, n'est pas plié. Je pense que quand même, du côté des syndicats, il y a une forme de déception. On a beau être dans la troisième semaine, ça a beau être la troisième manif. Bon, on est quand même assez nettement en dessous de la première. À noter quand même, je trouve, un point extrêmement important. Je pense que ça fait bien longtemps en France qu'on n'a pas deux manifestations de cette ampleur à la suite qui se passent dans un calme relatif. Et mine de rien, c'est quand même un point rassurant, c'est-à-dire que sur un sujet aussi important que les retraites, les manifestations se sont bien passées, et y compris entre syndicats, puisqu'il y avait des petites peurs quand même qu'entre CGT et CFDT, ça s'invective. Ils se sont sûrement pas fait des petits bisous, mais ça s'est bien passé.
Ils ne sont peut-être même pas croisés, puisque Laurent Berger est resté que 30 minutes.
Oui, mais alors attention, ça, j'entends beaucoup parler de ça. Ce serait illusoire de croire que les délégués syndicaux, les têtes de liste des syndicats fassent toute la marche, ça n'arrive quasiment jamais. Alors c'est vrai que 30 minutes, c'est pas très longtemps, mais ils font jamais très très longtemps,
ils font trois mots devant les télés, derrière la banderole au départ, et c'est vrai que souvent ils s'en vont assez rapidement.
Alors faut-il y voir un signe ou pas? En tout cas, Laurent Berger, c'est peut-être l'homme de la situation demain, l'âge pivot, le renoncement, on verra si Édouard Philippe lâche là-dessus. On s'en dit un mot, plus encore, votre analyse dans un instant.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1, Nathalie Lévy, jusqu'à 19h. Vous êtes entourée des grandes voix, comme chaque jour, des grandes voix qui débattent autour de l'actualité. Ce soir, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou et Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1.
Et nos auditeurs, à commencer par André qui nous appelle depuis l'Alsace. Bonsoir André.
Bonsoir Nathalie, bonsoir les grandes voix.
Bonsoir.
Eh bien, moi j'ai simplement deux choses à dire. D'abord, ce système pivot de 64 ans, excusez-moi d'employer un terme un peu trivial, c'est une pisterie, parce que ça revient à placer l'âge minimum de retraite à 64 ans, sauf à la limite pour les gens qui ont commencé à travailler très jeunes. Donc c'est absolument dégueulasse. Alors, il ne faut pas dire que l'âge est de 62, il faut dire clairement les choses. On le remonte à 64 et au moins les choses sont claires. C'est un premier problème. Et puis un deuxième problème, on vous balance ça comme ça parce que c'est un engagement du président de la République. Alors, on peut dire il tient ses engagements, ça, effectivement. Mmh. A priori, il tient ses engagements. Mmh. Mais il y a tellement d'autres solutions qui n'ont pas été évoquées et dont on semble visiblement ne pas vouloir discuter, qui permettraient sans problème de trouver des fonds ailleurs, avec des solutions.
Alors justement, c'est intéressant. C'est intéressant ce que vous dites, André, parce qu'on va les évoquer, justement, ces possibilités, ces propositions qui sont faites, notamment par Laurent Berger de la CFDT. Merci beaucoup de votre appel, André. Laurent Berger de la CFDT, ou même Yves Verrier, que j'avais en ligne il y a quelques instants pour Force Ouvrière, il propose une augmentation des cotisations. Voilà.
Personne n'en veut.
Ça,
mais
alors,
personne
voilà. Alors,
ne
voudra une proposition.
Bon, personne. Alors, il n'y a pas 36 solutions, il y en a 3. Effectivement, celle que vous venez de mentionner, c'est-à-dire les cotisations. Personne ne s'engagera dans une augmentation des cotisations, alors que toute la partie de la politique du président de la République a été justement de baisser les cotisations, etc.
Les
deuxièmement,
impôts, etc.
Baisser le niveau des retraites. Est-ce que vous imaginez que quelqu'un va proposer de baisser le niveau des retraites, alors que justement tout est fait pour dire qu'il faut maintenir les retraites à leur niveau, etc. Donc, il ne reste que la troisième solution, c'est-à-dire effectivement un certain allongement de la durée de cotisation. Mais en plus, il y a maintenant que c'est devenu un totem politique, les 64 ans. Si vous voulez, au départ, il y a d'autres solutions possibles. On peut concevoir, on peut rassembler des financements ici et là, on peut arriver. Mais en fait, pour Philippe, c'est lui qui défend ça, il l'a confirmé aujourd'hui à l'Assemblée. Il a dit qu'il irait
jusqu'au bout. Il a dit sa totale détermination.
Et c'est devenu son totem. Ouais. Avec ça, il a avec lui, derrière lui, toute la droite. La droite déjà ralliée à Macron et la droite qui n'est pas ralliée à Macron mais qui pense comme lui.
Qu'il a interpellé d'ailleurs, évidemment, et il a eu raison de le faire cet après-midi à l'Assemblée. Charles Villeneuve, c'est vraiment un totem les 64 ans. Emmanuel Dutheil, vous allez nous éclairer aussi dans un instant. Ou c'est là-dessus qu'il peut lâcher parce que de toute façon, c'est ce que lui demande Laurent Berger qu'il faut le ramener.
Oui. Mais enfin, cette réforme, de toute façon, est coûteuse. Elle coûte cher. C'est quand même une usine à gaz extrêmement compliquée qui a été montée. Il est bien évident que, ne serait-ce que la réforme des régimes spéciaux, c'est techniquement une usine, je répète le mot, une usine à gaz absolument très difficile. En ce qui concerne les cotisations, si vous augmentez les cotisations, d'ailleurs, Darmanin a répondu à cette éventualité.
Sûrement pas.
Et puis avant-hier aussi sur Europe 1 aussi, de toute façon, l'idée est de faire supporter, si vous augmentez les cotisations, aux salariés et aux entreprises. Bon, il est bien évident qu'on n'arrivera pas sur cette solution. Mais moi, ce qui me paraît, si vous voulez, ce que cette crise a fait émerger, pour moi, l'homme clé ne me semble pas être Laurent Berger. L'homme clé me semble, et j'adhère à ce que vient de développer Gérard, c'est le Premier ministre. C'est aujourd'hui, et on le verra encore demain, le Premier ministre, je pense, restera sur son Aventin. C'est-à-dire qu'il ne franchira pas le Rubicon de céder, si vous voulez, sur le totem, justement, des 64 ans.
Et Emmanuel Dutheil, je me tourne vers vous. Qu'est-ce qu'il peut lâcher, alors, Édouard Philippe ?
C'est-à-dire qu'il va sûrement falloir lâcher d'une manière ou d'une autre sur l'âge pivot. Mmh. En tout cas, il va falloir l'ouvrir fortement. Ils ont quand même une manière, c'est d'étirer fortement la mise en place.
Des délais,
je pense que c'est extrêmement compliqué, cette réforme des retraites. Il faut savoir que l'âge pivot, ça entre avant. C'est complètement à côté de la réforme des retraites. Ça entre en vigueur dès 2022 pour atteindre l'équilibre en 2027.
Ils vont l'appeler autrement.
Donc, ils peuvent l'appeler autrement que l'âge pivot. Ils peuvent faire une contourne. Ils peuvent contourner. C'est vrai que Laurent Berger a l'air d'être tellement
arc-bouté sur ses 64 ans,
comme vous dites, que ça paraît compliqué d'avancer sans négocier là-dessus. Après, il va falloir que les syndicats fassent un effort sur le retour à l'équilibre. On voit bien les interviews qui sont données ces derniers temps. On a quand même à Laurent Berger qui est un poil moins énervé. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de lire son interview à La Croix ce matin.
Oui.
Bon, il dit que ce n'est pas un totem de parler d'équilibre qu'on peut trouver.
Donc
sur ce plan-là, Édouard Philippe a quand même finalement réussi.
C'est pas un gros mot de parler d'équilibre financier.
Donc ça veut bien dire qu'il y a une volonté commune. Il y a et qu'a priori Édouard Philippe n'est pas trop non plus inflexible, Laurent Berger n'est pas trop inflexible. Puis il faut voir qu'il y a un autre syndicat à côté de la CFDT L'UNSA. Qui commence à les titiller fortement, c'est l'UNSA, qui est un syndicat qui négocie très très bien en ce moment cette crise des retraites, puisqu'ils sont aussi bien très offensifs à l'RATP, à la SNCF, et en même temps n'abandonnent jamais la table des négociations. Donc la CFDT est bien obligée de se dire « Waouh, lui, il est prêt à négocier, donc il faut faire un petit truc. »
On se parle dans un instant, Charles Villeneuve ?
Oui.
Juste après cela. Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est tous les jours jusqu'à 20h sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy jusqu'à 19h, c'est le débat des grandes voix. Ce soir, autour de la table, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou et Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1.
On zoomait juste avant cette petite hotte de Noël, mais bien chargée, messieurs, sur l'homme clé a priori, sur le papier jusqu'ici, Laurent Berger de la CFDT, pour peut-être dénouer cette crise. Mais effectivement, il y a un autre acteur, l'UNSA, Laurent Escure, qu'on entend aussi beaucoup et qui a un discours toujours avec une forme de modération, de précision et qui peut peut-être, lui, Charles Villeneuve, devenir l'acteur clé.
Alors c'est un point sur lequel moi je voudrais insister, évoqué par Emmanuel Dutheil à l'instant, l'UNSA, parce que pour une raison simple, c'est un syndicat qui pèse parce que c'est le premier syndicat à la RATP. C'est le deuxième syndicat à la SNCF et dans l'éducation nationale. L'UNSA réclame aussi la suppression de l'âge pivot et l'application de la clause du grand-père dans les régimes spéciaux. Mais la CFDT aussi pèse, en ce sens où elle pèse 20% des conducteurs de train. Or, 70% des conducteurs de train, c'est la catégorie la plus mobilisée dans la grève, justement, de la SNCF. La CFDT a son rôle à jouer sur ce plan-là aussi.
Alors voilà.
Je voudrais dire juste un mot sur Berger. Parce qu'effectivement, on a trop facilement présenté Berger comme le faiseur de la réforme, grâce à qui, dès lors qu'il basculait du côté de Macron-Philippe, la réforme se faisait, etc. Moi, je crois qu'il est plus fragile, il est beaucoup plus fragile dans cette affaire, parce que de deux choses d'une. Imaginons, par exemple, demain, s'il top, comme on dit, s'il fait un accord avec Philippe, est-ce qu'il y a vraiment intérêt ? Il y aurait intérêt si Philippe disait « Je retire totalement les 64 ans ».
Mais non, comme il va attention, pas... une énorme compensation. Il va enfin avoir une pénibilité prise en compte dans le calcul de la retraite, qui est un combat mais qui date depuis des années du côté de la CFDT. Donc pour ses troupes, il va quand même... Lui, non, c'est pas comme un Philippe Martinez qui va tout perdre ou tout
mais
gagner.
Mais je le nuancerai quand même. D'accord, c'est très important pour lui. Mais c'est vraiment, aux yeux de l'opinion... C'est où il obtient la tête, si j'ose dire, des 64 ans, où il ne l'obtient pas.
Ça, c'est sûr.
Or, Philippe, justement, lui n'a aucun intérêt à lui donner la tête. Si j'ose dire. Il peut lui donner des aménagements, mais il ne peut pas lui donner le dire « je retire ».
Oui, ça, c'est vrai.
Je retire les 64 ans. Donc je pense que Berger, je redis, n'est pas l'homme absolument déterminant dans cette affaire.
Mais faudra-t-il encore qu'il pèse sur sa base
aussi.
Est-ce qu'elle va le suivre ?
Exactement. Alors du coup, ce qui est intéressant, peut-être, est ce que Mickaël Darmon disait tout à l'heure dans le journal de 18h, c'est que ces discussions qui vont s'ouvrir demain, c'est d'abord en bilatéral, ensuite plénière jeudi. Ce qui est intéressant, c'est que en bilatéral, ils vont pouvoir chaque partenaire, chaque syndicat dire et mettre sur la table leurs exigences. Emmanuel Dutheil.
Et puis là, attention, on n'est pas dans du jeu hein, dans ces bilatérales. Là, c'est fini, les rendez-vous pour faire plaisir, voilà. On se fait bisous. Et là, véritablement, demain, ça va être pour travailler. C'est-à-dire qu'ils ont eu vraiment du temps. Les syndicats ont énormément travaillé, les syndicats réformistes, ces derniers jours, pour regarder ce qui est possible. Donc là, ils vont confronter projet contre projet et ils vont voir où le compromis est possible. Ce qui est très, très, très dangereux, c'est si demain soir ou jeudi, il n'y a pas l'esquisse d'un compromis qui arrive. Là, la guerre de tranchées que décrivait très bien Gérard, elle est un peu imprévue et l'issue est
plus qu'un
peu imprévue.
Mais le bilatéral aussi, Emmanuel, permet au Premier ministre de savoir jusqu'où il peut aller.
Ah bah bien sûr.
Là, tout est mis sur la table et effectivement, on a toutes les données sans faux semblant, Gérard.
En tout cas, on va enjamber Noël jour de l'an. Tant mieux, probablement avec quelques trains quand même.
En tout cas, c'est là-dessus que le gouvernement communique.
Mais ça ne veut pas dire qu'on ne retrouvera pas cette affaire en janvier.
Mais moi, ça ne m'étonnerait pas qu'Edouard Philippe soit content d'un début de guerre des tranchées, avec notamment ce qui se passe à la SNCF, puisqu'on va voir les sondages qui vont sortir, mais Édouard Philippe joue très clairement l'opinion. C'était très clair dans son discours au Conseil économique et social.
Bien sûr.
À chaque fois, il parlait à l'opinion.
Et comme il y aura des trains, l'opinion. Il y aura suffisamment de trains.
Il y a un train sur deux.
Oui,
et bon
mais
courage
il communique
ceux
là-dessus.
Pas de
vous avez vu comment ça se passe. Il communique là-dessus pour rassurer, évidemment.
Mais pour
Fermin,
regardez,
on
est trop fort.
Un train sur deux, ça calmera le jeu.
Ça peut calmer le jeu et ça permet d'avoir l'opinion.
Même virtuel, la guerre de tranchées fait des dégâts.
Ça, c'est sûr. Mais elle peut en faire à la CFDT aussi. C'est déjà arrivé dans le passé. Il faut qu'il fasse attention aussi à ça. Il a un électorat, si j'ose dire. Surtout qu'il y a des élections syndicales bientôt.
Mais vous savez, il s'appuie sur une enquête interne qu'ils avaient faite sur les retraites qui montrait que la population de la CFDT était très ouverte à une forme de réforme. Donc il estime qu'il a un mandat parce qu'il a fait une enquête, mais très poussée. Hein, vraiment un travail qui avait été rendu public, très puissant. Et donc il estime qu'il a un mandat et qu'il sait qu'il peut emmener ses troupes. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas quelques troupes d'ici de là qui ne se sentent plus bien et qui partent.
Et puis la grève aura coloré quand même le paysage global.
Et surtout, elle aura fait apparaître un émergent puissant, typique d'ailleurs de l'articulation de la Ve République, le Premier ministre.
Exactement. Parce que vous aurez remarqué sans doute qu'on avait beaucoup vu Emmanuel Macron durant la crise des Gilets jaunes.
Ah ben là, il laisse effectivement.
Là, il laisse Édouard Philippe en première ligne, il est son atout majeur. Sauf qu'Emmanuel Macron s'exprimera le 31 décembre.
Mais, on verra ce qu'il dit. C'est vrai, mais c'est le gilet pare-balles.
C'est le gilet pare-balles. C'est pas le gilet jaune, c'est le gilet pare-balles. Exactement. Merci Charles Villeneuve, Gérard Carrérou, Emmanuel Duteil, c'était Les Grandes Voix. Europe 1.